Allô, passez-moi Amber. Amber. Amber, la ville d'Amber. Vous êtes sourd ou quoi?
Mesdames et messieurs, bienvenue en 2024, bienvenue dans une décennie dans laquelle l'humanité est tournée vers le ciel, le cou tendu vers les étoiles, les yeux plongés dans le noir à scruter le ciel en attendant la rédemption ou l'espoir d'une nouvelle vie ou de prouesses technologiques qui viendraient améliorer notre confort de vie et permettraient par exemple d'écouter Radio Super en haut débit dans le monde entier. Et cela fait 2500 ans depuis la naissance de l'astronomie que l'homme avec un grand H est concentré sur les cieux. Mais que se passerait-il si nous arrêtions et baissions le regard pour se concentrer sur ce qu'il se passe sous nos pieds? Nos ancêtres avaient eu la merveilleuse idée d'appeler notre planète la Terre, puisque ce n'est pas tant l'eau qui l'a définie en tant que planète qui nous a apporté la vie, mais bien la Terre que nous foulons, et malgré cela... Même Thalès, le grand Thalès du théorème, aurait trébuché en regardant les étoiles. Lui n'a pas écouté les conseils de sa servante Thrace, qui lui aurait conseillé de regarder sous ses pieds plutôt que garder la tête dans les étoiles. En 2024, selon beaucoup d'informations, nous ne connaissons pas 1% du total des espèces qui se meuvent dans nos sols et réalisons qu'on a perdu 75% d'insectes en 40 ans, 60% d'oiseaux sur les terres agricoles et 80% des vers de terre dans les terres cultivées en agriculture conventionnelle. Nous sommes donc en train doucement d'éliminer la vie sous et sur la terre puisque celles-ci sont interdépendantes et je suis sûr que les personnes autour de cette table acquiesceront. Mais pour en savoir plus sur ces sols que nous foulons dans tous les sens du terme et à l'invitation d'Emeric et Nicolas du service déchets de la communauté de communes Amber-Livrade-Forez, nous allons passer une heure masso menos sur Radio Super à décortiquer ces sols couche par couche et élément par élément avec Thierry Dalbavi, spécialiste du sol vivant, mais aussi Benjamin Valzer de la ferme des Rodilles à Tours-sur-Mémont et Maxime Tondu de Croque-Jardin à Bertignat. Tous deux maraîchers sur le territoire et accoucheurs de sol vivant. Mais d'abord, je me tourne vers nos hôtes, Nicolas et Emeric du service déchets, à l'initiative de cette journée sur la fête du sol vivant. Mais avant ça...
Un œil rond, véritablement un œil. Et sans doute, comme moi, êtes-vous frappé par deux de ces yeux à l'expression indéfinissable, mais qui me semblent résolument provocatrices. Je pars... de l'œil nommé Amber.
Radio Super, la première radio d'Amber.
Alors, bonjour Nicolas et Emeric. Alors, la fête du sol vivant, qu'est-ce que c'est? Dans quel moment ça s'inscrit? Emeric, pour commencer.
Bonjour.
Bonjour. La fête du sol vivant, qu'est-ce que c'est? C'est un événement national, c'est une quinzaine nationale. Qui est porté par le réseau Compost Citoyen et qui a pour but de parler de la gestion de nos biodéchets, notamment des déchets verts qui sont aujourd'hui exportés majoritairement dans nos déchetteries, alors que pourtant en fait ce sont des trésors pour la biodiversité de nos sols. Et du coup on profite de cette quinzaine pour en parler de nos sols et dire que en fait toutes ces matières que l'on envoie loin de chez nous, sont en fait inestimables finalement pour la vie de nos jardins, de nos cultures, etc.
Alors il est 20h52, on se retrouve dans l'auditorium de la gare de l'Utopie qui est maintenant vide après la conférence de Thierry Dalbavi. La plupart des gens sont autour d'un verre derrière le bar, mais nous écoutent et pourront bien sûr participer. Est-ce qu'on peut rebrosser rapidement le programme de la journée, ce que vous avez proposé à la gare de l'Utopie en ce samedi 12 octobre, Nicolas?
Oui, bien sûr.
Donc déjà, l'événement a commencé mercredi dernier, donc mercredi 9, à la ferme d'Hérody, avec une visite de l'exploitation, où on a pu aborder de manière, dans un premier temps un petit peu théorique, les fondements du sol vivant, et où on a pu ensuite prendre part à une visite un peu plus terre à terre, au milieu des cultures. Aujourd'hui, samedi 12 octobre, donc on a passé toute l'après-midi à proposer des animations, compost, gestion des déchets verts, du broyage à la tondeuse, des fabrications de haies sèches, du tressage, tout un tas de petites pratiques qu'on peut mettre en place dans son jardin. Et puis, il reste encore une date, le lundi 14 octobre à 17h30, à Bertigna, où on aura l'occasion de visiter la ferme de Maxime, le croque-jardin.
Eh ben, ça tombe bien parce qu'ils sont là aujourd'hui. Ces ateliers, on imagine bien, répondent un peu à des objectifs que vous essayez d'atteindre tout au long de l'année avec le service déchets.
Aymeric ? Eh ben, oui, effectivement. Nous, on porte cet événement aujourd'hui parce que on s'intéresse au sol vivant à titre individuel, mais effectivement en tant que service déchets de la communauté de communes, nous notre objectif c'est aussi que ces déchets soient valorisés au plus juste et à moindre coût. Ça a un coût pour la collectivité de gérer les déchets verts en déchetterie, et encore une fois c'est doublement dommage parce que ces ressources sont un vrai trésor pour nos jardins. Donc du coup on essaye d'en parler, de réduire le volume de ces déchets dans nos déchetteries.
Et alors justement, est-ce qu'on peut brosser rapidement, faire un rapide état des lieux du territoire sur la question, sur les politiques et les acteurs de cette gestion des déchets? Comment ça se passe? Quelles sont les grandes lignes?
Oui, donc en termes de déchets verts, déjà un chiffre, c'est 1200 tonnes de déchets verts qui sont apportés chaque année dans nos déchetteries. Donc 1200 tonnes de déchets, pardon, de ressources qu'on sort de nos jardins et qu'on prive de nos sols. Et la politique, on va dire, au niveau de cette gestion des déchets verts, c'est vraiment de rapprocher le lieu de valorisation du lieu de production, ne pas faire sortir ces déchets, ces ressources vertes de nos jardins pour les restituer au sol. Donc on va essayer de mettre en place par exemple des haies sèches communales pour communiquer sur ce qu'est une haie sèche, la simplicité de la mettre en œuvre soi-même au sein de son espace vert. On essaye aussi d'informer et de sensibiliser à l'usage du paillage avec toutes les ressources, l'herbe de tonte, les feuilles mortes qu'on peut avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, lors de cette table ronde, on pourra aborder un petit peu ces questions-là qui sont plus qu'importantes pour la santé de nos sols.
Ouais, on peut bien parler de ressources plutôt que de déchets. Par exemple, pour la préparation de cette émission, j'ai appris qu'au moment où le tout à l'égout avait été installé à Paris, il y avait une bronca générale des producteurs des alentours de la capitale à qui on enlevait la plus grande partie de leurs intrants, qui étaient les déchets qui venaient directement de la ville et qu'ils étaient obligés d'aller chercher. Ils avaient l'obligation d'aller chercher ces déchets tous les jours pour les ramener dans leur parcelle. Il y a donc cette partie sur les déchets, mais vous accompagnez aussi les communes autour de l'utilisation de phyto, ou la non-utilisation de phyto plutôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, donc ça a commencé en 2019, donc avec la loi Labbé sur l'interdiction des phytosanitaires. Donc avec la mise en place tout d'abord d'un système de réservation de matériel de désherbage mécanique pour gérer les stabiliser, les terrains de pétanque par exemple ou autre. Et puis on propose également des accompagnements par la Fredon Auvergne-Rhône-Alpes pour développer de nouveaux espaces verts, de nouvelle gestion des espaces verts avec l'implantation de vivaces, de la taille douce, des pratiques qui vont justement limiter la production de ces déchets verts, mais aussi leur réutilisation, que ce soit par broyage et par utilisation en paillis pour les massifs des communes.
Et est-ce que vous avez observé un grand changement depuis que vous y êtes? Vous, ça fait, enfin toi Nicolas, un peu plus longtemps que tu es à ce service-là. Est-ce que tu as pu observer un changement chez les, dans les communes ou chez les particuliers autour du compostage, de la gestion des espaces verts?
Donc oui, plutôt, on va dire, on aimerait plus, toujours, hein, forcément. On remarque de plus en plus dans les communes, on va dire, une généralisation de l'utilisation de broyeurs pour toutes les branches qui vont être coupées par souci de praticité. On remarque également que les communes mettent de plus en plus en place des zones enherbées dans les cimetières, de la tonte mulching également pour voilà, éviter cette production de tonte. Et puis, peut-être de plus en plus aussi une répercussion sur l'habitant, puisque les espaces verts des communes sont nos premiers communicants, en fait, sur ces pratiques et sur l'intérêt de ces pratiques.
Et donc, pendant que la COCOM essaye de réduire la présence des déchets ou de ressources qui passent par leur service, les déchets, les ressources, on pourrait dire, poursuivent bien leur course vers le sol avant d'y atterrir et de s'y mélanger. Mais que s'y passe-t-il? Qu'est-ce qu'il s'y passe dans ce sol et de quoi il est fait et comment faire pour l'animer, le rendre vivant dans le coin spécifiquement? Bon, restez avec nous, car pour nous en parler, il y a Thierry Dalbavi, Benjamin Valzer et Maxime Tondu. Le jeu des 1000 euros, c'est bien ça, un connaisseur à ma gauche, Thierry Dalbavi, qui a donné un cours magistral sur le sol, les sols plutôt, que vous avez pu écouter sur Radio Super si vous étiez branché et que vous pourrez réécouter. Nous allons en reparler, mais peut-être on peut faire un tour de table et je vous laisse vous présenter un peu qui vous êtes, Thierry, Maxime, Benjamin. Qui veut commencer?
Je peux commencer, oui. Ben bonjour tout le monde, je m'appelle Thierry, donc Thierry Dalbavi. Alors je suis de base, comme diraient les ados, je suis animateur nature au départ. Ensuite je suis devenu formateur et je me suis à la fois intéressé à toutes les sciences du vivant, mais je me suis également beaucoup intéressé à toutes les sciences de l'éducation. À savoir, quand on a besoin de faire passer un message, il y a un peu des techniques de communication. On se rend compte que l'injonction ne fonctionne pas, par exemple. Si on engueule les gens en leur disant ce que vous faites, c'est pas bien, ça, on sait que ça fonctionne pas. Si on dit à une personne qui a passé toute sa vie à bêcher, à enterrer du fumier, que c'est plus comme ça qu'il faut faire, on est un donneur de leçons, on est un petit jeune, et puis il va pas du tout apprécier. Donc c'est aussi important de s'intéresser à la transmission.
Et pour transmettre, il y en a qui vont transmettre un peu leur pratique aujourd'hui. Benjamin et Maxime, tous deux maraîchers sur le territoire. Qui veut se lancer?
Allez, je me lance. Eh bien, bonsoir à tous, moi c'est Maxime Tondu, je suis maraîcher sur la commune de Bertignat, c'est la ferme Le Croque-Jardin. Donc nous, notre activité principale c'est faire du maraîchage pour remplir des conserves. On a toute une gamme de conserves végétales, des tartinades, des pestos, des pickles et tout un tas d'autres choses.
Et Benjamin, pour terminer?
Eh bien, bonjour à tous, Benjamin, je suis associé avec ma compagne Elodie à la ferme d'Hérodie sur Tours-sur-Mémon. On est maraîcher également, sur petite surface non mécanisée, et voilà, on est non issu de cursus agricole, ce qui pour nous a été facilitant, c'est-à-dire pour s'abreuver et se former différemment, c'est-à-dire pas de savoir à décompacter, parce que j'estime que le savoir donné en formation agricole est complètement ringard, et se doit de tenir compte des avancées scientifiques, entre autres, et des attentes de la société civile. Donc en gros, nous, on a pris comme porte d'entrée le sol parce qu'il y a eu une mouvance à ce moment-là qui s'appelait le maraîchage sur sol vivant. Et grâce à eux, grâce à de l'open source, grâce à de la vidéo de formation, à 900 heures sur Internet, faire de terre production, eh ben on s'est formé. Ce qui fait qu'on a un cursus en agronomie pure, pas en élevage de porcs de batterie, qui nous permet de comprendre des principes et d'appliquer nos recettes, parce que je dis bien, on a nos recettes, et ce n'est pas décalcable dans le vivant.
Et vous êtes bien ancré sur le territoire. À quelle altitude à peu près se situent vos champs, vos jardins ?
Ça doit être à peu près comme Maxime, aux alentours de 700 mètres.
Oui, c'est ça.
Et on va en reparler de ce que vous avez pu apprendre tout au long de votre formation. Maxime aussi, c'était une reconversion ?
Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas du tout du milieu non plus. Je fais plutôt une formation d'architecte. Et j'ai suivi plutôt un parcours un peu plus traditionnel avec une formation en école. Mais ça ne m'empêche pas de remettre totalement le système en cause. J'ai beaucoup moins de bagages agronomiques que Benjamin. Je suis plus dans l'expérimentation un peu empirique.
Et on a eu un cours quand même assez théorique juste avant sur le sol. Est-ce que vous voudriez donner, vous trois ou n'importe qui autour de cette table et dans cette pièce, une définition un peu personnelle du sol? Est-ce que vous avez une définition qui vous parle du sol ou des sols?
Le mot sol vivant est déjà un peu abusif. Il faudrait parler de sol mort en opposition. Il y a rarement de sol mort, quoi, hormis dans les déserts. Sol vivant, c'est juste donner un point de vue important au sol, quoi. Sinon principal, quoi. Cette porte d'entrée qu'on a eue sur le sol nous a permis de voir que, oui, à la fois un sol, ce sont les plantes, ce n'est pas dissociable d'une plante, le complexe sol-plante, mais c'est aussi un endroit où sont gérés principaux cycles, c'est-à-dire les cycles du carbone, les cycles de l'eau. Là où, comme Thierry l'a expliqué juste avant dans sa conférence, 80% de la biodiversité terrestre habite les sols, et notamment toute sa biomasse également, quoi. Et c'est un lieu assez méconnu, et le début de toute chaîne trophique. Donc à partir de là, il y avait beaucoup de portes à ouvrir, tout aussi passionnantes les unes que les autres.
Maxime, une définition du sol ?
Elle est déjà très, très complète, celle qui vient d'être donnée. C'est vraiment le support de toute la vie, de toute notre vie, de tout ce qu'on essaye de faire. Et pour pas répéter ce qui a été dit, faut surtout essayer d'en prendre soin, essayer de la comprendre. Je crois qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus dans les décennies qui viennent. Je pense qu'au final, on comprend pas grand-chose et on a beaucoup d'a priori et d'inconnus à ce sujet. Donc en prendre soin du mieux qu'on peut. Et essayer de le nourrir pour qu'il puisse nous nourrir en contrepartie. C'est de faire une symbiose.
Et Thierry, donc, on a eu droit à une description assez scientifique du sol, mais pour toi, qu'est-ce que c'est le sol ?
Faut qu'on s'entende sur de quel sol on parle. Un sol, naturellement, dans les écosystèmes naturels qui ne sont pas directement sous influence humaine, ou qui le sont peu, je sais pas, comme une forêt ou une prairie naturelle, une savane par exemple, il se crée un sol sans intervention humaine. Donc pour faire un sol, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait des hommes. Les sols qui sont dont vous avez parlé précédemment sont des sols agricoles, donc des sols qui sont transformés par les hommes, alors qu'ils peuvent l'être très peu, qui peuvent simplement être accompagnés par des hommes, ou bien qui peuvent être complètement transformés par des hommes. Mais c'est pas l'homme qui fait le sol. Le sol se fait tout seul, c'est un mécanisme naturel qui force l'émerveillement. Plus on connaît ce qui se passe en dessous de nos pieds, plus on met la lumière sur l'ombre, plus on va se rendre compte qu'il y a du génie là-dedans, et que ce génie, il force le respect.
Et alors, on a l'impression que, dans ce que vous disiez, que le sol était quand même assez méconnu, qu'il y avait une grande méconnaissance des sols. D'où ça vient ? Parce que ça me paraît quand même important pour la survie de l'espèce humaine, pour notre propre survie, c'est là d'où vient notre nourriture. Pourquoi est-ce qu'on connaît si peu le sol ou les sols qui sont sous nos pieds ?
Comme quoi le savoir ne fait pas tout. Il ne suffit pas qu'on nous dise que le sol, c'est magique, c'est magnifique et que la biodiversité est là. Le problème du sol, en fait, il a un gros problème, le sol, c'est qu'il est... on ne le voit pas. Il est obscur. Il est sous nos pieds. Donc on le piétine, on le foule en permanence. Et ce qu'on ne voit pas, quelque part, ça n'existe pas.
Et puis j'ajouterais aussi que voilà, ça fait peur. C'est un endroit où on enterre les morts, traditionnellement. C'est voilà, c'est noir, c'est ça rattrape enfin beaucoup d'idées. C'est, culturellement, on a du mal à concevoir, donc in fine, ça fait peur, quoi.
C'est sale, ça tache, c'est plein de bactéries.
Au Moyen Âge, par exemple, à l'époque féodale plutôt, les paysans qui étaient asservis à un seigneur. Ils avaient le droit de manger que ce qui poussait dans la terre. Ils mangeaient des légumes racines, des raves, des carottes, enfin des carottes qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Donc ce qui était dans la terre, dans la glèbe, c'était bon pour les moins que rien, c'était les sans-terre justement. Alors que le Seigneur, lui, mangeait les fruits qui poussaient à l'air libre, les fruits, les pommes, les pêches, etc. Les fleurs, c'était réservé aussi au Seigneur. Et donc, il y a déjà une transformation de la représentation que peut avoir ce qui sort de terre. C'est pas bon, ça sort du noir, ça, c'est diabolique, quelque part. Et où c'est gluant, c'est sale. Il y a aussi ces notions-là. Et tout ce qui pousse en l'air, c'est noble.
Bon, voilà, c'était plutôt déjà mal parti pour bien appréhender et bien apprendre à connaître le sol. Peut-être là, ça vient de là, cet intérêt pour les cieux, parce qu'on finalement on connaît extrêmement bien le ciel et sa composition. On arrive à avoir des photos de trous noirs maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière photo d'un trou noir. Bon. C'est un trou noir.
C'est trou blanc.
C'est un trou qui est noir. Et on en sait si peu sur ce sol. Et à quoi il nous sert, le sol ? Qu'est-ce que vous diriez sur l'utilité du sol pour nous, humains ?
Ben, la naissance des sols correspond à la naissance de la vie sur Terre. Avant cette période très très ancienne, c'est de l'ordre du plusieurs centaines de millions d'années, donc 400, 450, 500 millions d'années. À cette époque-là, la vie était essentiellement marine. Et à un moment donné, la vie a décidé d'aller sur Terre. Et pour aller sur Terre, ben, ce n'était pas facile parce qu'il y avait des stratégies pour garder l'eau. Quand on vit dans l'eau, on n'a pas de problème d'eau. Quand on vit sur Terre, on a tout de suite un problème d'eau. Donc c'est ce qui a permis notamment de créer les vaisseaux conducteurs de liquide. C'est les fougères qui ont créé les premiers vaisseaux conducteurs. Et les racines ont été créées en même temps à cette époque-là. Et donc petit à petit, à partir de là, dès qu'il y a eu des plantes qui étaient capables de survivre en milieu terrestre, c'était intéressant parce que c'était un espace nouveau à conquérir, à partir de ce moment-là, toute cette matière organique a commencé à se décomposer et ça a commencé à générer des sols. Bon, au départ, les sols n'étaient pas complets, étaient juste en ébauche. Voilà, ça date de cette époque-là. Donc à quoi ça sert ? Ben, depuis cette époque-là, ça sert à créer de la vie. À générer de la substance pour nourrir la vie.
Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je me disais aussi, dans le présent, concrètement, ça permet aux gens de se nourrir, de se vêtir, par-delà les plantes. Je réaffirme que les plantes font partie du sol. Même si on en voit la partie visible à l'extérieur, il y a 50% qui est dans le sol et qui participe à la fois à la vie microbienne, qui participe elle-même à ce qu'une plante pousse, mais ça participe aussi à l'infiltration de l'eau, qui permet aux nappes d'être là, aux rivières d'abonder, aux pluies de tomber. Donc à côté de ça, oui, c'est alimentation, cycle de l'eau, cycle de carbone, d'autres cycles biogéochimiques, mais en fait, c'est les fondements de notre vie. On peut voir que 80% des microbes autour d'une plante sont les mêmes que dans notre tube digestif. À partir de là, on peut commencer à penser l'alimentation. Mais si on oublie les sols, ben, on se casse la gueule ou on se trompe de raisonnement, quoi.
On se casse la gueule et on tombe sur le sol, il est là pour nous le rappeler. quels sont justement les indicateurs d'un bon sol ou de bons sols, un indicateur d'un sol plutôt vivant, ou d'un sol pas trop mort.
Pas trop mort. Ben, oui, un sol vivant, c'est un sol capable de nourrir des plantes. Et ces plantes contribuent aussi à le nourrir. Donc un bon critère, c'est quand les plantes poussent bien et qu'elles sont résistantes à tous les agresseurs qui sont là. Voilà, une plante en parfait équilibre avec son sol a des capacités naturelles de résilience et de résistance par rapport aux ravageurs.
Et maintenant, je me tourne vers les maraîchers. Vous, quand vous êtes arrivés dans vos lieux respectifs, dans vos fermes respectives, comment était le sol ? Est-ce que vous avez fait un état des lieux à l'arrivée ? Un peu comme quand on arrive dans un appart, on fait un tour du propriétaire comment on regarde si le sol est en bonne santé ? Est-ce que vous arriviez sur quelque chose qui était tout de même assez vivant ?
On peut avoir plein de petits indicateurs pour savoir dans quel état est le sol. Il y a un auteur du CERF qui a fait tout un ouvrage sur les plantes bio-indicatrices qui nous apporte plein d'indications. On peut faire un trou dans le sol et regarder quelle est la texture de la terre. On peut faire des analyses en laboratoire pour savoir un petit peu au niveau de la chimie qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'il en est. Et après, avec toutes ces petites billes-là, on essaye de faire un peu notre affaire, nous, pour une pratique maraîchère. Donc, avec une pratique maraîchère, ça demande d'exporter énormément de choses du sol. Pour faire un légume, il faut plein de nutriments. Ces nutriments, ils viennent de l'air et essentiellement du sol. Du coup, on exporte énormément. Donc, c'est nous, dans notre travail, enfin, moi, de la manière dont je le vois, c'est on demande beaucoup à ce sol, on y enlève beaucoup de choses. Du coup, pour moi, la moindre des choses, c'est d'essayer de lui en remettre, d'en remettre des choses. Donc, on n'exporte que le nécessaire, vraiment que le fruit, que le légume, que la racine. Tout le reste, on le laisse sur place. Et on essaye après, en contrepartie, on pourrait dire, de remettre de la matière dans le sol pour qu'il retravaille, qu'il refasse qu'il fasse son œuvre. Il a tout ce qu'il faut pour le faire tout seul. On n'a pas besoin, nous, de faire grand-chose. Il faut juste le respecter, le laisser faire. Comprendre un petit peu comment il fonctionne avec les maigres connaissances qu'on a aujourd'hui et qu'on a nous en tant que maraîchers c'est une partie de notre métier, mais on a plein d'autres choses à gérer, donc le sol se gère tout seul, c'est très très bien.
Alors est-ce que tu as pu observer une différence ou est-ce que tu te souviens de l'état un peu de ton terrain quand tu y es arrivé?
Oui, on avait beaucoup de berces, beaucoup de rumex. On avait des sols qui étaient piétinés à certains endroits. Sur d'autres parcelles, on a des sols qui sont très très peu épais. On est vite sur la roche mère en décomposition. Chez nous, on appelle ça du gore. Et du coup, c'est pas forcément des parcelles qui étaient adaptées pour faire du maraîchage. On est arrivé ici avec un projet, on était architecte, on avait plein de projets, plein d'idées, plein la tête. Et quand on a commencé à vouloir faire du maraîchage et qu'on s'est formé et renseigné, on s'est dit, ouais, bon, c'était peut-être pas la meilleure parcelle. Mais bon, on était là, du coup, on travaillait avec ce sol, on essaye d'apporter des choses au sol pour qu'on essaye de l'améliorer, mais toujours avec cette perspective où moi je suis maraîcher et je veux essayer de sortir des légumes et de mon terrain. Donc j'essaye d'y apporter des choses dans ce sens-là. Quand je dis des choses, on s'entend, c'est pas, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'entrée de synthèse ni rien. Quoi. C'est on laisse la végétation sur place, on la broie, on la mulche, on l'intègre, on ne laisse pas le sol nu. Voilà, on a tout un tas de techniques. Pour faire ça, ce qu'on estime aujourd'hui en 2024, essayer de faire ça bien, je pense que dans 10 ans, on se dira, mais c'était des grosses conneries peut-être. Mais bon, tout de suite, on essaye de faire les connaissances qu'on a.
On se donnera, on se fera une autre émission dans 10 ans et on en reparlera. On va reparler un peu de toutes ces techniques qui permettent d'enrichir un peu le sol du coin et de s'éloigner un peu de ce gore-là. Benjamin, toi, vous, quand vous êtes arrivé avec Elodie sur la ferme, dans quel état le sol était
Avant de s'installer, on a voulu partir sur une prairie. Parce que quand tu pars d'une prairie, en général, tu pars d'un endroit où il y a déjà une fertilité en place. À partir de là, il faut voir une chose assez simple, c'est comment ta prairie pousse. C'est-à-dire tes foins, est-ce qu'ils sont à hauteur de tes genoux, de tes hanches ou de tes épaules, quoi. Ça, c'est des bons indicateurs visuels assez simples, quoi. Ensuite, il faut mettre, enfin, connaître son terroir, c'est-à-dire que, comme vient de le dire Maxime, on a des sols assez superficiels. Malheureusement, oui, qui ne sont pas adaptés sur le papier au maraîchage, quoi. Les vrais sols maraîchers, ils devraient être là où sont les villes, quoi. Et voilà, ce qui reste à côté, ben, c'est les céréaliers qui l'ont parce qu'ils ont des trop grosses bécanes, quoi. Donc, nous, on arrive, ben, on prend là où le foncier est possible, où la pression foncière est moindre, et on s'installe et on fait comme on peut. Donc, à partir de là, sur une prairie, si tu bouleverses pas les horizons dont parlait Thierry, il y a possibilité déjà de garder cette fertilité en place, cette structure de sol, cet habitat, pour ensuite la développer et l'amener vers quelque chose qui produit aussi des légumes, quoi, parce que c'est une particularité, le légume, mais qui d'un point de vue microbien, d'un point de vue sol, n'est pas si différente d'un domaine prairial, beaucoup plus d'un domaine forestier.
Et alors, si j'ai bien écouté, un bon indicateur, c'est une terre en forme de couscous.
De graines de couscous.
De graines de couscous. Est-ce que vous vous dirigez vers de la graine de couscous maintenant dans vos fermes respectives?
Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la graine de couscous. C'est souvent, la graine de couscous, c'est suite à des passages mécaniques répétés. On crée une porosité provisoire qui, finalement, avec quelques puits plus tard, s'endurcissent, quoi. En fait, si on regarde un sol vraiment vivant, même en prairie, hein, des belles prairies, il n'est pas si évident de rentrer sa main, quoi. Pour autant, on appelle ça un béton poreux. On fait un test bêche, on regarde, il y a plein de trous, plein d'air, suffisamment pour que les racines s'y mettent, quoi. C'est pour moi une vieille idée qu'il faut abolir, parce que ça implique en fait l'usage mécanique. Parce que il est possible d'avoir un sol très souple, mais ça dépend du contexte, en fait, et puis de pas mal de choses. Si on se met ça en objectif, on risque d'aller vers du mal, quoi.
Est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Benjamin?
Oui, c'est juste dans les principes, c'est juste. C'est effectivement un sol de prairie. Il suffit de faire le test bêche dont tu parles, là. Il suffit de le faire pour se rendre compte qu'une portion de sol, de 15 cm de profondeur, 15-20 cm de profondeur sur 10 cm de large, c'est très lourd. Donc il y a ce côté, effectivement, un peu béton, avec beaucoup de passages de verre, donc il y a des galeries. C'est très différent d'un sol où on a passé une fraise, par exemple. Mais alors pour le maraîchage, je ne sais pas, c'est différent du jardinage, où du jardinage, on a plus le temps de prendre soin de la terre et de faire, même si on fait pas des gros, enfin, si on n'utilise pas d'outils mécaniques, mais simplement, par exemple, un croc, sur une terre qui n'a jamais été bêchée, qui a été tout le temps couverte par des plantes et qui a reçu pendant longtemps des paillages, on arrive juste avec un petit coup de crochet à avoir une terre qui est quand même très grumeleuse et où le lit de semences pour faire des cultures délicates comme des salades, des radis, est prêt assez rapidement. Donc y a pas, on n'a pas ce côté très plombé d'une prairie. Alors je suis d'accord sur le fait qu'une prairie, en fait, c'est un très bon départ. Après, il y a prairies et prairies. Il y a des prairies très... Nous, on est en région volcanique, donc les prairies sont profondes avec beaucoup de diversité. Ça, c'est aussi un des critères de reconnaissance de la qualité d'une terre. C'est la diversité des plantes qui y poussent. Après, effectivement, si on a des plantes... là, je suis toujours dans les indicateurs. Si on a des plantes avec un enracinement très, très profond, comme tu disais, là, avec les rumex, ou bien des chardons, par exemple, ben on sait qu'on a certainement des problèmes de compactage en surface ou en profondeur. Je rajouterais peut-être une chose sur la part de la nourriture que fournit le sol par rapport à la part de nourriture que fournit la photosynthèse. Des fois, ça fait un peu peur aux gens quand on annonce ces chiffres, mais une plante... Ça, on le sait depuis à peu près la fin du 19e siècle. On sait qu'une plante, elle se nourrit d'abord et avant tout à partir de la photosynthèse. C'est-à-dire qu'elle se nourrit à 80, plus de 90%, voire plus de 95% à partir du gaz carbonique qui est dans l'air et de l'eau qui est dans l'air, et grâce au soleil. et que la part restante, c'est-à-dire le sol, c'est 5% de la nourriture de la plante. Donc ça peut vouloir dire, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben alors ça sert à rien que je soigne mon sol, puisque de toute façon la plante se nourrit à partir de l'atmosphère. » Sauf que la plante a besoin d'être dans un... Enfin, le sol, pour être riche, il faut qu'il soit vivant, pour permettre aux plantes de pas être, d'être résistantes à toutes les attaques qu'elles vont subir, quoi. Et, mais la nourriture est quand même vient d'avant tout de l'atmosphère. Quoi. Ça plombe un peu le débat.
Bah, je trouve ça. Non, mais c'est trop bien de le rappeler parce que des fois on croit pas. Ça prend les racines, ça se nourrit dans le sol et terminé. Non, c'est d'abord les plantes mangent de la lumière. Ouais. Par contre, voilà, dans le sol, il y a tout le tableau de Mendeleïev là et qui est essentiel à la vie, quoi. Et il y a toute la phytoprotection, c'est-à-dire les interactions microbiennes que la plante a permettent à la plante finalement de vivre. C'est comme nous.
Et Thierry, tu parlais de diversité et tu l'as dit, tu l'as sorti, le ver de terre qui est un élément important. Et dans
c'est un animal, plus qu'un élément.
Un élément, ben, un animal important pour le sol. Et dans toute cette diversité, il y a aussi les champignons. En ce moment, on est dans la période des champignons et les auditeurs et auditrices savent qu'on aime ça sur Radio Super. Et il y avait une dame dans le public qui disait tout à l'heure bon, qu'il y en avait quand même plus avant. Est-ce que la présence de champignons, enfin la partie visible du champignon, est un indicateur d'un sol bien vivant ?
Alors là, quand on parle des champignons et de ceux qu'on voit, la majorité des gens vont chercher les champignons dans les bois, en forêt. On va les chercher aussi un peu en prairie pour les rosées, les mousserons, etc. Mais la majorité des champignons connus des gens, c'est-à-dire ceux qui produisent un organe de reproduction qui est visible et qu'on a du plaisir à ramasser, c'est essentiellement dans les milieux forestiers. C'est là qu'il y a le plus de champignons, de ce type de champignons-là. C'est une catégorie de champignons qui sont visibles et qui fructifient. Chez un maraîcher, chez un paysan, enfin chez un producteur, un céréalier de Limagne ou de Beauce, il a dans son terrain des champignons qui ne fructifient jamais à l'extérieur. Ils fructifient dans le sol, donc on ne les voit pas. Ils sont sous forme de spores, c'est minuscule, c'est microscopique, on ne le voit pas. Et dans nos jardins, on a des champignons dans nos jardins, sauf si on a un sol qui est hyper chargé en engrais chimiques, engrais minéraux, auquel cas les champignons n'ont plus lieu d'être, ils sont déjà tués. Mais sinon, dans le jardin, tous nos légumes, tous nos arbres fruitiers, y compris les arbres, enfin tous les arbres fruitiers, y compris les arbres de la haie, sont mycorhizés et on ne voit jamais les champignons. Donc tous les légumes sont associés entre eux, sauf les grandes catégories de champignons qui n'ont pas de légumes qui n'ont pas de champignons associés sont les choux, enfin tous les légumes de la famille des choux, hein, les brassicacées, tous les légumes de la famille des oseilles et tous ceux de la famille des chénopodes, des épinards, etc. Mais sinon, tous les autres légumes sont associés à des champignons qu'on ne voit pas. Ce qui montre que le travail du sol ou bien le non-entretien du sol va perturber complètement tout ce réseau de champignons.
Et alors, pourquoi, si le champignon est si important que ça, pourquoi en agriculture conventionnelle, on utilise aujourd'hui toujours des fongicides qui veulent dire des
tueurs de... J'allais vous poser la question, parce que je ne sais pas.
Une réponse, peut-être. J'imagine que vous en utilisez pas trop...
La nature a la horreur du vide. Et en fait, quand tu crées un chaos, tu détruis une lame de... mettons, une dent de herse, peu importe. Le premier dommage collatéral avant les vers de terre, c'est les ifs mycéliens. C'est parce que ça fonctionne tout en réseau, c'est coupé, c'est broyé, c'est plus interconnecté. Au-delà de ça, du coup, il y a une place écologique à prendre, et en général, y a certains pathogènes qui sautent sur l'occasion pour s'y mettre. À partir de là, des mauvaises pratiques amènent des problèmes, quoi. Et ces problèmes-là sont traités par d'autres types de pratiques qui vont amener une fois de plus des problèmes, quoi. Donc on voit bien que c'est un peu, enfin c'est une boucle assez morbide, mais qui est intelligible d'un point de vue. Je vends des intrants, je vends des outils de travail du sol. Enfin c'est quelque chose qui se tient, quoi.
Et alors, donc on imagine que vous n'avez pas utilisé donc, de fongicide chez vous et que vous n'en utilisez toujours pas.
On n'a pas le droit.
Et sûrement que vous n'allez pas en faire et que vous n'avez pas le droit en plus. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour éviter ce vide et ce chaos, pour plutôt faire du plein dans vos jardins, dans vos cultures, Maxime ou Benjamin ? Quelques outils pour favoriser justement le développement de cette vie
comme disait Benjamin, c'est essayer de déjà le moins le perturber, donc d'éviter de passer des outils rotatifs de manière excessive, essayer d'avoir le sol qui est couvert, éviter de perturber tout ça, quoi. Tous ces champignons, toutes ces bactéries, ils sont naturellement présents dans les sols, donc il faut juste les laisser tranquilles au final.
Oui, puis qu'est-ce que mange le champignon ? Le champignon, c'est le seul être vivant sur Terre qui mange ce qu'on appelle la lignine. C'est ce qui compose le bois, le matériau dur qui compose le bois. Donc s'il n'y a pas de champignon sur Terre, la dégradation est impossible. Parce que le ver de terre, en fait, in fine, mange des matières organiques qui ont déjà été prédigérées par les champignons. Donc sans champignons, il ne va pas se passer grand-chose. D'autant plus que, je l'ai déjà dit, mais une plante, c'est un système aérien. Mais un système souterrain, et le système souterrain, quand on parle de mycorhize, les racines, seules, ça n'existe pas. Ou quasiment très peu, quoi, à 5%, on va dire. Et encore plus ça avance, plus on découvre qu'en fait, il y a des nouvelles mycorhizes. Mais c'est qu'en gros, des racines sont des symbioses entre champignons et végétales. C'est pas juste des racines.
Et alors, là, on est sur de la culture un peu maraîchère. Est-ce que... alors, on a un chiffre du nombre de jardins particuliers qui correspondrait à 4 fois la surface cumulée des réserves naturelles. Donc, ça fait quand même beaucoup de jardins. Est-ce que vous diriez que c'est transposable aux particuliers, aux jardins du particulier, les techniques de maraîchage ?
Je dis juste, ça fait pas assez de zones naturelles.
Ça fait beaucoup de jardins.
Il y a un autre chiffre qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de jardins. Il y a beaucoup de gens qui sont réunis en association de jardiniers, jardins familiaux, les anciens jardins ouvriers, etc. Il y a une grosse quantité, enfin, il y a une très très forte surface, certainement, qui est occupée par les jardins. Mais il y a une autre statistique, c'est que les principaux consommateurs de pesticides sont les jardiniers amateurs. Parce que, en fait, pour être tranquille, ils forcent un peu sur les doses. Bon, déjà, ils utilisent beaucoup. Hein, on voit dans les jardineries, enfin, il y a des jardineries qui sont plus vertueuses, mais il y a beaucoup de jardineries qui ont un rayon de produits, soi-disant de protection. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est assez étonnant qu'on parle de produits phytosanitaires, qui sont des terminologies très positives, pour des produits qui sont dans la négative totale, quoi. De la même façon qu'on parle d'un déchet pour un trésor, un déchet qui n'est pas un déchet, qui est une ressource, comme tu le disais. Oui.
Et dans quelle direction maintenant ça va, peut-être là, Aymeric ou Nicolas pourraient intervenir, au niveau de la politique, au-delà de la politique internationale, où il doit y avoir beaucoup de cas différents. Au niveau de la politique nationale ou locale, vers quoi on se dirige ? Est-ce qu'on tend de plus en plus vers une interdiction de ces produits soi-disant phytosanitaires ? Ou est-ce que on avance d'un pas pour reculer de 4 ou 5 ?
Alors, au niveau de la politique nationale, j'évoquais au départ la loi Labbé qui interdit ces produits phytosanitaires pour les espaces verts, les espaces publics. Elle a été généralisée auprès des particuliers, mais toujours avec ce petit problème de remplacer un produit par un autre produit qui semble peut-être plus naturel, mais qui a tout de même des effets certainement néfastes pour nos sols, alors que on a des pratiques, et je pense que les maraîchers pourront nous en parler un petit peu plus dans le détail, qui nous permettent de nous exempter de ces produits et qui d'aller acheter ces produits-là. On a toutes les ressources chez nous, sur nos sols, pour en prendre soin.
C'est quoi rapidement ces pratiques dont Nicolas parlait, qui permettent d'éviter les produits phytosanitaires? Ça, c'est pour tous les jardiniers qui se poseraient la question et qui nous écouteraient.
Si on regarde juste sous le prisme des phytosanitaires, il y a plein de méthodes. L'agriculture bio en propose. Mais de toute manière, voilà, c'est aller dans le sens de la vie et du vivant. Parce qu'avant de lutter contre, il faut savoir quelle connerie on a fait, quoi, tout simplement, quoi. Après, pour rebondir juste sur le sujet national, il y a eu un projet de défi où il y a eu un demi-milliard d'euros mis pour baisser les phytos en France, quoi. Deux ans après, bilan plus 20%, quoi. Mais là, je ne suis pas en train de mettre la faute sur les paysans, loin de là, je mets la faute plutôt sur une société civile. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Thierry, c'est qu'il suffit de voir, nous-mêmes, dans la société civile, dès lors qu'on cultive, in fine, est-ce qu'on arrive à faire mieux? Comment on fait mieux? Est-ce que culturellement, on est prêt, en fait, à laisser une place aux vivants et pas tout contrôler dans un jardin? Il faut qu'on ait des jardins, il faut qu'on change d'appréciation par rapport à ça, mais il faut qu'on sorte aussi d'une manière qu'on a de voir le vivant, et dans un jardin, rendre tout propre, tout tondre, tout le temps, tout vouloir gérer, ça en fait aller contre, tout simplement, et c'est se gourer de chemin. Quoi.
Voilà, comme dirait mon père, faut que c'est propre. Peut-être on se dirigerait plutôt vers autre chose dans cette conversation. Alors tu parlais justement d'agriculture, d'agribio, d'agriculture biologique, qui est plutôt un label. Dans quel cadre votre pratique s'inscrit? Est-ce que c'est l'agriculture bio, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est le terme qui pourrait regrouper votre pratique et qui pourrait définir votre pratique?
Commercialement parlant, on est sous le label agriculture biologique. C'est un label qui est de base, on va dire, et qui permet à tout le monde de comprendre qu'on ne met pas de produits chimiques ou autre chose comme ça. Après, tout est améliorable, notamment ce label. Et nous, dans nos, enfin moi, dans mes pratiques, hein, je parlais pour moi-même. Il y a pas d'intrants. On essaye de produire sur place la matière qu'on va mettre dans les sols. Donc on va broyer des arbres, on va refaire des trognes pour faire du BRF, on va utiliser la tonte de pelouse ou le foin qu'on fait sur les zones qu'on dédie à des zones de loisirs autour de nos habitations pour mettre sur les terrains, faire du paillage. Chez nous, on a des poules, du coup on utilise le fumier de nos poules pour amender les terrains. Des voisins en face à 300 mètres ont des ânes, on va récupérer leur fumier. Ouais, on essaye d'avoir. Par rapport à la matière, à la nourriture, aux légumes que l'on sort de nos terrains, on est obligé de rajouter des choses. Si on voudrait avoir un truc équilibré, il faudrait ne pas y toucher et laisser la nature faire. Étant donné qu'on a une pratique, forcément on vient perturber tous ces horizons, on a forcément un impact dessus. Du coup on essaye de remettre un petit peu de matière dans ce sol pour le faire travailler, comme je le disais tout à l'heure. Et nous, après, dans nos pratiques par rapport à ça, on essaye de gérer le tout au plus local possible. Ne pas avoir des intrants qui vont traverser l'Europe ou parfois plus que ça pour arriver dans nos sols sous forme d'engrais chimiques et déglinguer encore plus le sol et perturber encore plus nos sols par rapport à nos pratiques.
Et Benjamin, toi tu t'inscrirais dans quelle pratique, enfin ta pratique, elle s'inscrirait sous un terme générique ou...
Comme Maxime, je suis labellisé bio. Après, pertinemment, je sais que la bio n'a pas l'apanage de l'écologie. Mais je ne vais pas distribuer les bons et les mauvais points, mais je veux juste dire que quand on veut comprendre une pratique, il ne faut pas regarder sous un seul prisme. Là, on parle des intrants, c'est bien. Si on parlait du point de vue intervention sur le sol, l'agriculture biologique est très néfaste quand certaines agricultures conventionnelles sont bien meilleures. Quoi. Je parle notamment de l'agriculture de conservation des sols, qui certes utilise des intrants et essaie de s'en émanciper, comme l'agriculture biologique essaie de travailler sur l'intervention minimale des sols. Mais voilà, il faut pas voir... l'agriculture bio, elle peut avoir comme souci, c'est-à-dire de répondre au conventionnel, juste en disant on fonctionne pareil, sauf que nous, on ne met pas des intrants bio, on met pas des intrants chimiques, on met des intrants bio. Mais en fait, le raisonnement, il est le même.
Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est l'agriculture de conservation des sols, justement, que tu citais ?
Bon, en fait, moi, je parle plus d'agroécologie en général. L'agriculture de conservation, elle est vraiment appliquée au domaine céréalier, quoi. Le domaine maraîcher sera plus sous l'apanage de maraîchage sol vivant, la vigne sous la belle vigne, l'élevage sous la vache heureuse. Enfin, il y a beaucoup de groupes de travail là-dessus. L'idée de l'agroécologie, c'est pas de prendre la vache comme outil de travail, le légume comme outil de réflexion, le sol non plus. C'est de prendre tout ça, en fait, pas dissocié, et d'essayer de gérer un agroécosystème. C'est-à-dire qu'on revient, en fait, plutôt que fonctionner dans une agriculture de silo, c'est-à-dire toi t'es maraîcher, toi t'es éleveur, toi t'es machin, on essaie de complexifier un peu le système, c'est ni plus ni moins que ce qui se faisait avant aussi, hein, mais d'une manière différente, quoi, pour en faire quelque chose de robuste, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionne ensemble, où les intrants diminuent, où les interventions diminuent, et où, si possible, l'agriculteur est plus heureux aussi et il gagne quelques sous aussi.
Et dans les intrants, alors on en avait déjà parlé avec Aymeric à l'occasion d'une table ronde sur les toilettes sèches. Est-ce que vous utilisez des déchets de toilettes sèches dans vos cultures et jardins ? Est-ce que c'est une pratique que vous faites, que vous avez ?
Toilettes sèches, non. Urine, j'aimerais bien. L'agriculture bio l'interdit.
L'agriculture bio interdit l'utilisation d'urine, oui, dans les jardins.
Pareil. Les composts doivent être sèches, on ne les met pas sur les cultures parce que c'est interdit. L'urine, c'est pareil. Peut-être ça va bouger dans les années à venir. Il y a quelques séminaires qui se mettent en place parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas, ou du moins qu'on veut ne pas connaître. On se met un peu des œillères depuis plusieurs années parce que le caca et le pipi, c'est sale. Alors que pas du tout.
C'est des pays où ça se fait. Hein.
Ouais.
Et en gros, nos besoins en azote et en phosphore, c'est à peu près 30% qui serait honoré et 30% d'intrants en moins. Mais c'est peut-être pour ça qu'on le développe pas aussi.
Donc ça pourrait être utilisé à grande échelle.
Bah bien sûr, surtout que l'urine est moins sale que le caca, si tu veux, quoi. L'urine est déjà beaucoup plus filtrée, quoi. Parce qu'on parle souvent de on bouffe plein d'antidépresseurs en France, ça se retrouve beaucoup plus dans les toilettes sèches, si tu veux, que dans l'urine, proprement dit.
Donc on pourrait avoir des courges qui nous rendent plutôt joyeux.
Bah oui.
Ce serait super, non ? On se dirige doucement vers la fin de cette émission. On va faire une pause musicale, justement parce qu'on parlait compost, on parlait de Radio Super, on est à la gare de l'Utopie, Radio Super, nous on est au Loco Côtier. Il y a une chanson qu'on aime bien écouter, par chez nous.
Salut, alors nous c'est une bande de potes, on a créé un collectif parce que on avait tous une vie à 100 000 à l'heure. Puis un jour on s'est dit mais what quoi, la vie elle passe. Puis on s'est dit on va créer un tiers lieu. Un tiers lieu, c'est quoi un tiers lieu? C'est un lieu collectif où on partage des savoir-faire autour de l'écologie, de la musique, de la cuisine, du yoga. Tout ça pour être un peu plus zen au quotidien.
radio super, l'unique, la seule.
Et il est 21h42 à l'occasion de cette table ronde autour de autour des sols vivants. Vous êtes toujours bien sur Radio Super. On est toujours pas trop près du bar, mais ça va ce moment va se rapprocher puisqu'on arrive vers la fin de cette émission. Et alors en off pendant cette musique de Dalle Béton qui s'appelle musique mange ton compost dans ton tiers-lieu. Est-ce que j'ai entendu dire qu'il y avait eu qu'il y a des webinaires, on peut s'informer sur l'utilisation justement de l'urine ou du caca dans à l'occasion de différentes dates. Est-ce que vous avez quelques petites dates à partager?
Je n'ai pas du tout en tête, mais ça doit se trouver sur le web.
Après, il y a un livre qui s'appelle « J'utilise mon urine au jardin », je crois, hein, un livre de terre vivante ou un livre comme ça. Oui, de l'or liquide au jardin, oui, c'est ça.
De l'or liquide au jardin,
ouais.
C'est très parlant. Qu'est-ce qui, vous, ça peut être vous tous autour de cette table, dans cette pièce, a bouleversé votre vision du sol? Quelle information ou quel moment à bouleverser votre vision du sol? C'est une question très large.
Oui, moi j'ai un souvenir quand j'étais jeune animateur en milieu associatif, animateur nature. On avait reçu un stagiaire. J'étais dans une association d'éducation à l'environnement. Et on avait reçu un stagiaire qui était très très branché, enfin qui avait déjà bien travaillé la question de la vie dans le sol. Et je me souviens d'une conversation qu'il avait eue avec un vieux paysan, c'était dans le Cantal. Et il expliquait au paysan que quand on mettait un coup de bêche dans le sol, on coupait les vers de terre en deux. Et bon, ça faisait beaucoup rire le paysan. Et en fait, il se moquait très, très ouvertement du jeune. Et le jeune était resté complètement droit dans ses bottes et expliquait que c'était pas bon de renverser les... Enfin, de mettre le sol cul par-dessus tête à la bêche ou avec un soc de charrue. Et ça faisait beaucoup rire le paysan qui disait, pour qui le sol, c'était, bon, il ne savait pas trop ce que c'était en fait. Hein. Il avait tout le temps travaillé la terre, mais il n'avait pas perçu la notion du soin qu'on peut apporter à son sol. Et ça m'avait interrogé quand même. C'était un bon souvenir et ça m'avait permis aussi de changer mes pratiques.
Est-ce qu'il y a justement des choses qui sont faites pour changer ou pas un peu cette vision du sol que peuvent avoir les agriculteurs?
Bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Enfin, toute l'information, les maîtres composteurs dans les collectivités, ça n'existait pas il y a, je sais pas moi, 10 ans. C'est très récent. Même ce diplôme, enfin, ce titre de maître composteur ou de guide composteur n'existait pas.
Qui claque
donc,
quand même.
Donc,
hein,
qui ouais. Claque quand même.
Bah oui,
classe,
c'est sûr. Hein. Sur la carte de visite. Oui. Donc c'est l'information, c'est le partage d'idées. Moi, ce que je trouve très efficace, c'est les visites de jardin. Ça se fait beaucoup. Hein. Même des gros organismes comme le Valtom organisent ça de temps en temps. Ils mettent un peu des sous là-dedans pour que les gens se retrouvent dans les jardins des autres, des voisins. Alors au début, c'est un petit peu compliqué à organiser parce que les gens se... Oh, vous savez, mon jardin, il n'a rien d'extraordinaire et tout. Mais... En fait, ce qui est important, c'est le partage de pratiques. Et dès qu'on partage, qu'on discute avec d'autres de ces pratiques, alors c'est du jardinage, hein, c'est pas du maraîchage. Mais ça permet de... Je suppose que ça se fait aussi en maraîchage, les visites, et qu'on échange avec d'autres. Et ça, c'est très formateur.
Bah, il y a eu des visites pas plus tard qu'il y a 3 jours. Et il y en aura aussi d'autres bientôt. Lundi
17h30 à Bertigna.
À Bertigna, à Croque-Jardin, chez ouais. Maxime. Vous, qu'est-ce qui a bouleversé votre vision du sol, Maxime?
Moi, c'est au tout début de notre pratique. Moi, mes parents avaient un jardin, mon grand-père aussi. Et bon, c'était le truc un peu traditionnel, hein, motoculteur, coup de râteau, et puis on fait un semis, et puis on passe son temps à passer la binette. Mmh. Et bon, du coup, c'est ce que je connaissais. Donc là, j'ai attaqué, j'ai reproduit les mêmes schémas. Puis C'était au printemps, sous la série, il faisait beau, il faisait chaud, c'est le renouveau et tout. Et puis du coup, je me suis accroupi, je commençais à mettre mes mottes de je sais plus ce que c'était, de légumes. Et puis là, j'ai commencé vraiment à regarder le sol, ce substrat sur lequel je mettais mes légumes, et essayer de comprendre, voir la texture que ça avait. C'était un petit peu le propos de la conférence de tout à l'heure. Ça faisait des grosses mottes, du coup j'ai regardé les grosses mottes, il y a plein de mottes de taille différente, c'était pas du tout égal. En cassant cette grosse motte, on se rend compte que c'est plein de petites mottes qui sont agglomérées, qu'il y a des petits trous, que c'est pas la même texture partout. En recassant ces petites mottes, on découvre des petites bêtes qui sont là-dedans, là, qu'on ne sait pas nommer, qu'on devine à peine. Et en fait, c'était se rendre compte qu'il y avait une vie extraordinaire là-dedans. Et que ouais, la pratique de passer un coup de cerquoir tous les 15 jours, de mettre un coup de motoculteur dès qu'on change une culture, outre le temps que ça passe, qu'on pourrait passer à faire ça, et après il y a des problèmes d'assèchement, c'est bon ni pour nous qui passons du temps, ni pour le sol. Et du coup, c'était cette première prise de contact en fait, direct avec le sol, juste se poser, le regarder.
Merci Maxime et Benjamin. Peut-être un moment.
Moi, ce qui au départ m'a choqué, enfin, c'était plutôt le constat, c'était de voir que voilà, 95% des fermes en France perdaient leur matière organique, c'est-à-dire elles perdaient leur capital sol, elles perdaient leur outil de travail. Ça, quelque part, ça m'a choqué. Alors après, dans mon cheminement, ce qui m'a bouleversé, moi, c'est le vivant en général, enfin, le sol, parce que c'en est le paroxysme. Mais finalement, ça m'émerveille. Et puis je suis d'ailleurs surpris que moi-même, qui était vraiment très loin de ces sujets-là à l'époque, soit aussi érudit, soit aussi passionné de ça à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce que j'en vis maintenant ? C'est que tout un chacun apprenne ou soit aussi amoureux de cette chose-là, de cet invisible que je le suis. Et puis ça sera tant mieux pour eux, parce que moi ça me fait du bien.
Voilà, le message est passé. Bon, j'espère que mon père écoute et qu'il va avoir l'idée d'aller voir un peu ailleurs que de sa charrue. Est-ce que dans le public vous avez des questions pour nos invités? Sinon nous on en a pour vous. Les MC, les maîtres composteurs ont préparé quelques questions. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Pas trop de questions. Est-ce que les maîtres composteurs voudraient en poser une de leurs questions que j'ai sous la main? On va leur laisser.
Alors,
on va César ce qui est à César.
Une première question, du coup, par rapport à vos pratiques de maraîcher pour tendre vers un sol de plus en plus vivant, est-ce que vous auriez une ou deux petites astuces à dire aux jardiniers qui peuvent nous écouter pour rentrer dans cette dynamique-là?
Pour moi, c'était la formation. Essayer de connaître, donc avoir des informations. Donc en tant que professionnel, on a des réseaux professionnels qui nous permettent d'apporter ces formations. Pour les jardiniers, il y a plein d'associations. On trouve tout un tas de trucs sur Internet. Déjà se former pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce qui est dans les sols. Enfin, c'est un petit peu le sujet qui a été brossé sur la conférence qu'on a eu tout à l'heure.
Ouais, bah pour ajouter, considérer le sol comme un bouillon de culture quand même assez silencieux, mais c'est un habitat qu'il faut respecter, avec des convives qui y logent et des convives à nourrir. Donc qu'est-ce que mange un sol? Le sol mange du carbone, et après je te les renvoie, et puis tu parleras des ressources déchets verts. Parce que ressources est un mot tellement meilleur que déchets, parce que trop connoté malheureusement, comme les microbes.
Thierry?
Moi, ce que je conseillerais, c'est de... Alors c'est plus applicable pour des jardins que pour des champs maraîchers. Je connais des maraîchers qui font ça, c'est de mettre des chaises ou des tabourets dans le jardin, d'installer dans différents endroits des chaises pour qu'on prenne le temps de s'asseoir et d'observer, de contempler. Alors c'est pas qu'un moment poétique, c'est pas qu'un moment d'observation ou de contemplation, c'est aussi un moment d'observation. On va d'un coup... Alors, c'est encore mieux si on a un appareil photo avec des objectifs un peu... qu'on peut voir les choses de plus près. Mais dès qu'on commence à regarder, par exemple, les pucerons, si on se met à les regarder un peu dans le détail, on va se rendre compte que dans des colonies de pucerons que l'on observe comme ça, qui peuvent faire peur quand ils sont en train de bouffer nos fèves, si on les regarde de près, on va peut-être découvrir qu'il y a un prédateur, des pucerons, qui s'est déjà installé et qui fait, voilà, et qui peut nous rassurer. Ça peut nous rendre le moral.
D'accord, donc regarder plutôt des films sur les pucerons, ça redonne le moral.
C'est pas des films, c'est être dans le jardin directement. Hein.
Et j'ajouterais sortir de la logique des recettes. Comprendre les principes, mais surtout sortir de la logique des recettes. On a beaucoup trop de questions, ça. Et si je fais ça chez moi, mais en fait, je sais pas. Je connais pas chez toi, je connais pas tes pratiques, je sais pas ce qui s'est passé avant. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est plus complexe plutôt que compliqué.
Et alors, je crois que Chloé avait une question, puisqu'elle s'est mise autour de cette table, non? C'était juste. Elle était juste venue s'asseoir.
Pour un peu de mixité.
C'est vrai.
Merci Chloé. Un dernier mot, quelque chose que j'ai un peu zappé. L'humusation. Qu'est-ce que vous en pensez de l'humusation?
L'humusation. J'aimerais bien que ça soit ma fin. Qu'est-ce que c'est l'humusation? C'est un procédé autre que l'inhumation ou la crémation pour sa fin de vie. Et donc on s'étale sur un lit de compost, on se laisse recouvrir par du compost. Et puis en quelques semaines, quelques mois, on a complètement disparu et on a nourri le sol avec son propre corps. C'est un procédé beaucoup plus vertueux que tous les autres, mais qui est malheureusement interdit.
Oui, interdit en vertu de l'article 2213-15 du CGCT sur l'obligation d'avoir un cercueil et de l'article 16-1-1 du Code civil.
C'est une hypocrisie à mourir.
Ouais. Qui stipule que, justement, cet article du Code civil stipule que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à la crémation, doivent être traité avec respect, dignité et décence.
Ouais, en fait, on est toujours dans un prolongement de la politique hygiéniste.
Mm-hmm. Alors que finalement, se faire enterrer, ce serait la description la plus proche d'un enterrement, ce serait l'humusation.
Oui.
Est-ce qu'on a une autre question du côté des pour le public, peut-être?
Alors, on reste dans des questions très techniques et peut-être question de recette, mais justement, on peut peut-être avoir un autre angle, mais on a souvent la question de c'est quoi la meilleure matière pour pailler son sol?
Ça peut être celle qu'on approche de chez soi.
Et la moins chère.
Excellente réponse.
Je dirais c'est pareil, il y a tellement de matière. On définit une matière de paillage, on le définit par le rapport entre la quantité de carbone et la quantité d'azote. Donc ça va de, par exemple, une paille de blé, c'est très riche en carbone, donc ça veut dire que c'est très long à décomposer, c'est plus long à décomposer qu'une paille d'orge ou une paille d'avoine ou une paille de seigle. Donc à chaque paillis, il y a ces utilisations. Et ben là encore, si on veut répondre à cette question, il faut mettre un petit peu de l'observation et de la connaissance sur le fait qu'il y a autant de paillis qui sont utilisables. Alors effectivement, comme tu disais, le meilleur paillis, c'est celui qu'on a sur place, qu'on peut utiliser, mais ils ont pas tous le même effet, quoi.
Eh bien, on se dirige... est-ce qu'il y a encore une question? Une autre question? On va enchaîner, alors on va terminer. Et c'est le générique de fin déjà.
Vous aimez mieux les disques que la radio?
Donc c'était une émission que vous pourrez retrouver sur Radio Super, écoutable en podcast. On a quelques ressources qui ont été collectées au fil de l'émission et de la conférence. Il y a la BD sur la vie secrète des arbres. Il y a un podcast sur France Culture Va plus loin les samedis qui s'appelle Les vers de terre pour sauver le monde avec Gaspard Koenig. Il y a la médiathèque, les médiathèques d'Ambert Livradois-Forez qui proposent qui propose une sélection d'ouvrages sur les sols vivants que vous pouvez déjà emprunter à la gare de l'Utopie. Il y a le site dont tu parlais, Benjamin, Vers de Terre Productions, qui recense 900 heures, tu disais, de documents.
Toutes sortes de conférences, de visites de fermes, de toutes sortes de spécialistes.
Des autour formations.
Des formations, ouais.
Il y a des formations. Et Chloé voulait dire un mot ? Quelqu'un voulait dire un...
Chloé nous a sélectionné une sélection d'ouvrages que la médiathèque a. Et du coup, elle avait quelques minutes pour nous en parler.
Ah, très bien. Eh ben, vas-y, on mettra le générique de fin à la fin. À la vraie fin.
Et ben, bienvenue à la médiathèque de la Gare de l'Utopie. Alors du coup, sur le gentil Sirtis qui nous donne tous nos documentaires et tous nos livres, j'ai tapé « Sol vivant ». J'ai trouvé « Jardinier sur le sol vivant, quand les vers de terre remplacent la bêche » de Gilles Domenech, édition Larousse, édité en 2021, qui semble être un ouvrage plutôt très complet et assez grand public, avec du théorico-pratique, allant de la description du système sol-plante à la présentation de techniques, avec des exemples à la clé. J'ai trouvé aussi « La vie du sol de nos jardins » de Gabriel Primtens, édition Elmer, édité en 2021, qui est aussi un bon guide complet quand même pour comprendre la vie du sol, avec, avec de très belles macro-photos. Donc on peut voir des colamboles magnifiques, c'est très exaltant.
J'adore les colamboles.
Des très belles couleurs, et ça permet quand même d'appréhender facilement des connaissances très complexes. J'ai trouvé alors tout un tas d'ouvrages aussi sur la permaculture, le sol, la syntropie aussi, les forêts-jardins. Je passe les titres car il y en a quand même quelques-uns. Il y a aussi la collection Terre Vivante, donc une collection avec plutôt aussi grand public, petit format, une centaine de pages, beaucoup de photos, des illustrations, des fiches, des astuces, des plans techniques... autour d'expériences en matière d'écologie pratique. On a notamment mon petit jardin en permaculture, j'économise l'eau au potager, faites tourner les rotations dans mon potager. Et question jeunesse, on a aussi quelques livres allant des tout petits sur le sol et sous le sol, de Philippe Giordano et Giovanna Zoboli, édition Seuil Jeunesse, édité en 2020, qui est un imagier très joliment illustré de scènes qui se passe sous et sur le sol. On a aussi Sous mes pieds d'Emmanuel Ousset, qui est un très grand album nature qui va décrire voilà, ce qui se passe un peu sous nos pieds au fil des mois. Et on découvre un peu la vie cachée des vers de terre, des cloportes, des colamboles et d'autres habitants du sol. Je peux finir par un petit extrait. Octobre, feuilles mortes et brindilles font la joie des habitants du sol. Par en dessous, ils grignotent et boulottent, ils cisaillent et déchiquettent, ils digèrent et rejettent, avec l'aide des champignons. Voilà, donc c'est quand même de la littérature jeunesse, et pourtant on est quand même dans un vocabulaire de précision. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Chloé d'être venue apporter une pierre à cet édifice de ressources. Il y avait aussi Marc-André Sellos, apparemment écrivain, auteur de L'origine du monde, qui est dont Thierry a parlé plus tôt, et Marcel Boucher, des vers de terre et des hommes. Et je crois qu'il y en a, il y a quand même beaucoup de choses. Où est-ce qu'on peut se former, s'informer, en tout cas dans le Puy-de-Dôme, une bonne adresse.
Dans le Puy-de-Dôme, dans le Puy-de-Dôme, ça fonctionne un petit peu comme ici, c'est-à-dire que ça passe souvent par des lieux qui ne sont pas forcément nommés tiers-lieux, mais des lieux associatifs, genre bar associatif, où tous les projets des adhérents, des bénévoles sont entendus et favorisés, quoi. Ils sont aidés, poussés, favorisés. Après, sur le Puy-de-Dôme, ça dépend des territoires, et des fois, il y a des collectivités qui accompagnent, d'autres non.
Eh ben c'est une super info pour terminer, puisqu'on va doucement nous aussi se diriger vers le bar associatif comme chez nous à la gare de l'Utopie. Et d'ailleurs j'avais une devinette pour finir, une devinette de ma propre invention. Qu'est-ce qu'on sert dans des bars à taupes?
Des bars à taupes.
Des vers de terre. Merci à vous. Et vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur Radio Super. Et puis on a hâte d'être à la prochaine. Peut-être rendez-vous dans 10 ans pour reparler des différentes pratiques dans les fermes. Merci beaucoup Thierry Dalbavi. Merci Émeric et Nicolas pour l'invitation. Merci Benjamin et Maxime d'avoir partagé vos pratiques. Et merci Chloé pour cette longue liste.
Merci.